Les pieds sur terre, quartier d'été.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
À peine Julien Sorel revêtit son habit noir de prêtre apprenti qu'il se met au défi de prendre la main de Madame de Rênal. Après une molle résistance, la main ne lui est pas retirée. Fort de son succès, Julien déclare son amour et obtient un baiser comme on gagne une bataille. Jamais, semble-t-il, sa condition de petit abbé ne semble se placer sur le chemin de son amour, ou plutôt de sa conquête. L'abbé Mouret, lui, tombe malade. À la suite de cette affection, il souffre d'une grave crise d'amnésie. Il en oublie sa condition de prêtre et s'ouvre au sens, à l'amour. Il le rencontre en la personne de la jeune et belle Albine, qui le soigne. Avec elle, il commet la fameuse faute de l'abbé Mouret. Mais à mesure que la mémoire lui revient, il se repent et retourne à l'église. Albine finit par se donner la main. Jean Sombreval, enfin, est un prêtre marié qui se prend de passion pour sa fille à la mort de sa femme. J'ai trouvé également, pour préparer cette émission, des exemples moins littéraires d'hommes d'église qui sont sortis du droit chemin. Un prêtre qui a quitté l'église pour travailler dans un sex shop, un curé travesti qui était aussi dealer. Et enfin, je vous épargne ce prêtre catholique d'Indonésie qui passe 17 mois dans le coma, puis en se réveillant se convertit à l'islam et construit une mosquée. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, quartier d'été, ni littéraire ni fait divers, mais universel comme l'amour. C'est l'histoire de Benoît et Annick, elle est racontée par Léa Minot et c'est le deuxième épisode de notre petite série intitulée « Leur chemin de croix » tout de suite sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Alors, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui?
J'ai fait 4 heures de cours sans interruption quasiment ce matin.
Ils étaient supportables?
Oui.
C'était pas trop insupportable?
Non, ça arrive, ça arrive.
Eh bien.
Je suis devenu prêtre un peu avant 25 ans. Je suis issu d'une famille d'une famille chrétienne, marquée d'ailleurs, et dans laquelle la question d'être prêtre se pose de manière assez forte, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est présent, un de mes oncles qui était mon parrain était prêtre aussi, ça fait partie un peu de mon univers d'enfant. Néanmoins, ce qui a vraiment déclenché chez moi l'envie d'être prêtre, c'est la rencontre d'un oncle un peu éloigné, qui était prêtre aussi, qui, de passage une fois pendant des vacances à la maison, a lui eu une attitude qui m'a profondément touché. Il avait une sorte de joie intérieure profonde, une manière d'être qui savait se réjouir des choses toutes simples, sans jamais s'imposer, enfin voilà, quelque chose vraiment, une sorte de transparence, quelque chose qui faisait envie. Je devais avoir 14 ans à peu près, ou pas tout à fait 14 ans encore. Et j'ai vraiment la sensation en moi que quelqu'un, j'allais dire, me disait « c'est pour toi aussi ça ». Qu'est-ce qu'on va manger?
Je sais pas. Qu'est-ce qui reste?
Je sais pas, oui, c'est ça. Parce qu'on arrête des trucs qui restent de ce week-end.
Il reste pas grand-chose.
Ben non, c'est une fois que les enfants sont passés.
Si,
on prévoit des choses.
Il y a des mousses, il y a des. Il y a du jambon, il y a des choses comme ça.
On va se débrouiller.
Non, ça va aller. Ça va aller.
Que je voulais avant tout, c'était être prêtre. Puisque les prêtres sont célibataires, le oui à l'un entraîne le oui à l'autre. Et donc, après avoir écrit une lettre pour m'engager au célibat, en disant que je le souhaitais, je me suis aperçu dans la suite que finalement, c'est une question à laquelle j'avais peu réfléchi. Et c'est même une question d'ailleurs dont on peut se demander légitimement si un tel engagement est possible, parce qu'il est facile à faire quand on n'a pas fait de rencontre. Alors que, en fait, ce qui pose vraiment la question, c'est une rencontre. À 23 ans, je n'avais pas été amoureux. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était et je n'avais pas de prise, si j'ose dire, sur cette réalité-là. Elle m'apparaissait un peu théorique et elle amenait beaucoup de confusion. C'est-à-dire que sentiment et passion, je ne faisais pas la différence entre toutes ces choses. On s'est rencontrés quand je suis arrivé ici, à Comble-la-Ville. J'avais 25 ans accomplis. J'ai eu 26 ans dans le courant de ma première année ici. Et Annick, à ce moment-là, en avait 30, pas tout à fait 30, ici 30.
Je me souviens d'un très jeune prêtre qui regardait les gens un peu fixement. J'ai appris après que c'est parce qu'il était myope et qu'en fait il les voyait pas. Il m'a plu comme prêtre. Et puis, de plus en plus comme homme.
Avec Annick, nous nous sommes retrouvés à avoir des activités en commun de manière plus proche, au service des tout-petits, au service de la liturgie, au service des baptêmes, enfin, il y a eu plusieurs choses comme ça. Si bien qu'année après année, on s'est rendu compte que finalement, on était souvent ensemble. De plus en plus, le courant passait. Moi, je me sentais bien en sa compagnie. C'était toujours agréable de savoir qu'elle allait être là. Et ça ne me posait pas de questions pour autant. J'étais content quand je voyais qu'elle était là. C'était une sorte de ouf en me disant, tiens, elle est là. Ça devenait une sorte d'évidence qu'il y avait entre nous quelque chose de très fort, que moi, je ne parvenais pas à nommer. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à me dire que j'étais amoureux. C'était l'interdit. C'était la chose impossible. Et me dire que j'étais prêtre m'interdisait de me dire que j'étais amoureux. A posteriori, ça crevait les yeux. Et moi, ça ne me crevait pas les yeux parce que je ne pouvais pas le voir, je ne pouvais pas le regarder. Si bien que j'ai pu dire à Annick, j'ai pu finalement arriver à lui dire « je t'aime » et tout en lui disant, en étant capable de lui dire « je t'aime », je me disais à moi-même, je suis pas amoureux.
C'était pour moi une catastrophe parce que c'était interdit, c'était pas prévu, c'était, je le ressentais comme quelque chose de contraire à ma foi. Mais j'étais quand même persuadée que je ressentais un amour pour lui et que lui ressentait quelque chose même s'il paraissait ne pas s'en rendre compte.
Je vivais une espèce de dissociation entre ce que j'étais, où je me trouvais bien, posé, paisible, joyeux, et ce que je devais être. Je ne pouvais pas être amoureux. Ce n'était pas pensable. Et puis, d'une certaine manière, il y avait rupture de contrat. Parce que, ça je me rends compte qu'après, hein, sur le moment, j'étais incapable de me dire tout ça. Il faut bien se mettre dans la tête que c'était une sorte de confusion et de brouillard total, qui a duré plusieurs années. Et c'est devenu gênant quand mon évolution a fait que la rencontre devenait nécessaire, souhaitée et nécessaire. Et à ce moment-là, j'ai des souvenirs d'Annick. Le samedi, par exemple, moi, j'arrivais à la chapelle du marché pour la messe, et puis elle était juste allant faire son marché ou revenant de son marché. Et puis j'étais content, en fait, de la voir de loin en marchant dans la rue avec ma petite mallette, là, de la voir en train d'attendre à sa voiture, et puis de voir qu'elle m'attendait sans rien dire, mais juste avec un sourire. Et y avait quelque chose comme ça qui nous suffisait pour le moment, mais qui illuminait la vie. Puis tout d'un coup, j'ai commencé à m'apercevoir où elle était dans l'assemblée, à la messe. C'est devenu une personne discernable. Voilà, c'était pas juste un membre d'une foule.
Attends, il faut que je trouve, faut que je mette une lumière parce que je ne veux pas les trouver. J'espère qu'elles sont rentrées. Alors attends. Voilà, je vais mettre la lumière.
C'est juste l'eau.
Ils ont dû rentrer dans le poulailler. Elles y sont toutes ?
Oui, je crois.
Voilà Chela. Voilà Gertrude. Voilà Gongli.
Voilà. Les quatre poules. Mais elles sont censées pondre des œufs. Mais pour l'instant, elles n'en pondent pas. Donc on se demande si on ne va pas finalement manger des poules.
Ah, c'est qui commence, voilà. Qui commence à faire frissons.
En fait, oui, on se voyait le plus souvent possible, on s'écrivait et on se téléphonait.
Vous vous souvenez de la première fois qu'il a dit « je t'aime » ?
Je ne me souviens pas de la première fois. Je me souviens de lettres. Je me souviens de sa petite écriture toute petite, des lettres que je relisais souvent. Mais tous les mots qu'il disait, le disait aussi.
Ça m'a posé des questions par rapport à ma propre fiabilité. Parce que je me disais, mais si j'ouvre la porte à cet amour, qu'est-ce que ça peut valoir ? Que peut valoir mon engagement ? Et même si je dis à Annie que je vais m'engager avec elle, comment est-ce que ça pourrait avoir une quelconque solidité si le prix, c'est que mon premier engagement ne tient plus ? Ça veut dire que dans le fond, je saute d'une expérience à l'autre, c'est tout, quoi. Il n'y a pas de continuité profonde, il n'y a pas de lien, un pion chasse l'autre, quoi, tout simplement. Et ça peut durer indéfiniment. Dans ce cas-là, il y aura peut-être quelqu'un après Annick aussi. Voilà. Donc je me dis, ça va où ? Et ça, c'était un questionnement aussi vraiment grave. Il y a un moment sur la toute dernière année où il y a une sorte de choc, et un choc qui va durer pour moi, là c'est vraiment ma manière de l'interpréter, je dirais 3 ou 4 ans où je suis en balance en me disant il y a quelque chose qui se passe avec Annick, je n'arrive pas à lui donner le nom juste, mais cela fait de notre relation quelque chose d'unique et d'à part, qui ressemble à rien d'autre. Au fond de moi, qui m'apparaît comme quelque chose d'interdit, et en même temps de profondément vivifiant. Je ne sais pas quoi en faire, mais ma perspective, c'est il faut que ça s'arrête, ça n'a pas sa place. Et je lui disais expressément, d'ailleurs, à ce moment-là, je serai toujours prêtre, ça ne s'arrêtera jamais. Il y a eu une troisième période dans laquelle ma réflexion devient plus posée. Je commence à me dire que je suis habité par un sentiment amoureux et où je commence à réfléchir en arrière, de manière récurrente, sur mon histoire et me demander qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ça. Tout le problème, c'est ça, c'était de nommer la chose. Et c'est ce qui fait un itinéraire tellement bizarre qui, entre parenthèses, devait la faire souffrir beaucoup, parce que elle devait bien percevoir à mes gestes, à mon type de présence, à l'intensité de notre relation. Je pense qu'elle a su bien plus tôt que moi nommer les choses. Et en même temps, il y avait de ma part un démenti dans la parole, c'est-à-dire que je disais le contraire de ce que je faisais.
Il y a eu beaucoup de moments où je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'attends encore ? Est-ce que je reste avec cette petite place que je peux avoir en ayant souvent le sentiment d'être dans une boîte qui l'ouvre quand il est disponible et quand il n'y a personne, et là je peux sortir de la boîte. Puis s'il y a quelqu'un, hop, je rentre dans la boîte, ou s'il n'est pas disponible, je suis dans ma boîte. Il y a eu des fois où je me suis dit j'ai pas le courage de continuer comme ça, et dans les meilleurs moments je disais j'envoie balader cette relation, et dans les pires je disais la vie n'a pas tellement de sens.
Je l'ai fait beaucoup souffrir, spécialement à ce moment-là. Et puis il y a eu une autre donc période ensuite qui pour moi est liée à mon passage de 5 mois au Canada pour réfléchir à mon engagement comme formateur de prêtres, où à ma grande surprise je reviens de là-bas. J'ai jamais été physiquement aussi loin d'Annick, mais peut-être de cœur jamais aussi proche. Et j'ai vraiment entendu dans mon cœur l'appel à estimer l'amour qu'elle me porte et à ne pas le considérer comme quelque chose d'arrière-main, mais comme un vrai signe de Dieu aussi et comme une aventure à vivre. Donc je reviens du Canada et je lui dis que j'ai entendu les choses comme ça et que donc je veux lui donner plus de place et trouver une voie nouvelle, tout en voulant faire les deux à la fois. Être prêtre et aimer une femme, les deux en même temps.
On rigolait souvent ensemble en disant on se mariera quand il sera en retraite, quand il aura 75 ans et moi 80. Comme ça, s'il y en a un qui a l'Alzheimer et l'autre qui a un continent... Celui qui a l'Alzheimer changera les couches de l'autre, et comme il s'en souviendra pas, ça sera pas un problème. Donc on rigolait comme ça, en se disant, de toute façon, on se retrouvera à cette époque-là, quoi.
France Culture, les pieds sur terre.
On aurait rangé un peu tout ça. Ben je voulais que je fasse réchauffer.
Ben non, il est vraiment froid.
Oui, oui, c'est plus
il
bon.
Il est désespérément froid.
Il faut ranger tout ça. Voilà. Ben oui. Voilà.
Et puis,
Je vais essayer de ne pas tout faire tomber.
La première fois que je l'ai embrassé, c'était horrible. Parce que j'ai eu l'impression de me faire violence de l'embrasser alors que je ne devrais pas. C'est un très mauvais souvenir. Tous les autres après sont géniaux. Mais celui-là, le premier, ça a été affreux.
Comme s'il laissait. Il lâchait les vannes, quoi. Comme si tout d'un coup, les barrières étaient parties. Et comme s'il laissait aller une part animale en lui. C'est pour ça que j'ai cru étouffer. Voilà, c'est un souvenir mitigé, quoi, à cause de ça. Comme si, il y avait une sorte un peu de désespoir dans ce. Dans ce baiser, comme s'il renonçait à quelque chose.
Moi, j'ai depuis longtemps mon jeudi. C'est un jour que je me suis gardé de libre depuis le début de mon ministère. Au début, parce que c'était le jour où la professeure de piano était libre aussi pour moi. Et donc, j'avais pris le jeudi, et puis j'ai toujours gardé par habitude, disons. Et puis ça s'est bien tombé, c'est qu'Annick aussi, dans l'enseignement, elle avait eu un jour de libre et c'est tombé, mais là c'est pas par calcul non plus que ce soit le jeudi. Et donc c'était un jour où on pouvait se retrouver, puis après de manière plus construite, on a cherché à se le garder l'un et l'autre, ça nous permettait de se retrouver ici, d'aller voir des expos, d'aller visiter des choses un peu plus loin, enfin d'avoir un temps un peu à nous, dans un certain anonymat. Je me rappelle qu'au départ... j'avais très peur quand on allait voir une expo à Paris, que quelqu'un me reconnaisse. Parce que je me disais, ça va être terrible, il ne faut pas qu'on me voie comme ça, avec une femme comme ça. Parce que là, c'était l'écroulement d'une image, d'une réputation, d'une position. Parce que c'est tout ça aussi, être prête, il ne faut pas oublier. C'est aussi on existe aussi dans le regard des autres, on apporte des choses. Et puis, il ne faut pas oublier que c'était quand même aussi quelque chose à quoi, enfin une fonction à laquelle j'aspirais depuis adolescent et dans laquelle je trouvais un immense épanouissement. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses à faire, c'était vraiment passionnant. Donc, je n'avais pas envie que tout ça se casse. Je n'avais pas ni envie d'écorner mon image, hein, ça je dois le reconnaître, très égoïstement. Mais j'avais pas non plus envie que la hiérarchie ait à réagir en me disant bah stop, c'est fini.
Thank you.
Il y a eu un moment dont j'ai du mal à donner la raison. C'était mûr. J'ai senti que je pouvais vraiment faire ce choix et assumer les conséquences qu'il allait avoir, y compris jusqu'à la rupture, et donc avec des changements profonds qui allaient entraîner qu'est-ce que tu vas faire après, quel métier, enfin voilà, des questions que je n'envisageais pas avant. Et à ce moment-là, j'ai pu dire à Annick, eh ben, je me souviens que c'était en haut d'une piste de ski à un moment où elle s'y attendait le moins, que ben, on allait pouvoir se marier. Il faudrait qu'on commence à penser à la date. Et j'ai dû lui dire d'une manière assez... en passant par les conséquences pratiques, quoi. Et je pense que ça l'a d'autant plus étonné que je lui disais comme si c'était déjà fait, comme si elle avait déjà répondu, d'ailleurs. Bon, et puis après, je lui ai fait une demande plus en forme, un peu plus tard, avec une bague de fiançailles et tout, parce que bon, ça c'est... On a beaucoup pleuré tous les deux, enfin, bon, c'était très bien, parce que l'émotion est toujours là, et puis ça permettait de, oui, d'aller plus loin et d'ouvrir mon cœur un peu plus.
Ça c'est très drôle, c'est un piano qui était ici dans la paroisse, et qui était un peu à l'abandon, et j'ai demandé à l'association paroissiale si je pouvais le racheter. Et en fait, comme il était en mauvais état, ils m'ont dit qu'ils me le donnaient à condition que je le fasse réaccorder moi-même et que je m'occupe des réparations. Ce qui était un très très bon deal. Et en fait, je l'ai toujours gardé. Alors, il a une rondeur de son, et ça c'est très agréable, mais je ne sais pas si je vais arriver.
Comment a réagi l'évêque ?
En fait, j'ai reçu un courrier électronique un samedi qui me dit « Mais qu'est-ce qui nous arrive ? J'ai appris que, j'ai vérifié que, et donc j'ai décidé que, à partir de samedi prochain, tu n'exerçais plus le ministère dans le diocèse de Meaux. Et puis, il faut que tu me vois. » Alors, moi, je disais, je lui ai répondu « Vous voir, mais pour quelle raison ? Puisque tout est déjà décidé, quoi. » C'est assez violent.
Est-ce que vous vous souvenez de la dernière messe que vous avez donnée ?
Oui. Moi, je savais que le dimanche prochain, je ne serais plus là. Mais j'avais demandé au curé du secteur s'il voulait bien que je... Moi, je pensais communiquer aux paroissiens, quoi, leur dire ce qui se passait pour qu'ils l'entendent de ma bouche et avec ma manière de le dire. Et puis aussi, peut-être, simplement par amitié. Je veux dire, j'ai travaillé avec presque 2 ans. Je leur dois aussi une parole, quoi. C'est normal. On ne quitte pas des gens qu'on aime sans leur dire au revoir, quelque chose. Bon, le prêtre de secteur m'a dit « Ah, c'est un peu compliqué d'aller si vite, parce que si tu le dis là, il faut qu'on le dise ailleurs, et on n'est pas prêt, on ne s'est pas organisé. » C'est vrai que du samedi au dimanche, c'était pas très très facile. Je comprends qu'il ait réagi comme ça. Et du coup, le samedi, j'ai célébré avec cette espèce de poids de savoir que moi, je ne les verrai plus. Et de ne pas pouvoir leur dire. Et ça, j'avoue que c'est une expérience douloureuse, en fait. Douloureuse.
Putain, deviens foireux.
Et c'est là qu'il s'énerve.
Non, c'est comment, déjà, à ce moment-là?
Là, je lui dis, mais t'as pas la partition? Dis, mais si, oui, mais je sais pas où elle est.
Bah oui. Oh mon Dieu.
Qu'est-ce qui vous impressionne le plus chez Annick ?
Alors, ce qui m'impressionne vraiment, enfin, je reste constamment ébloui par la manière dont elle a su attendre et dont elle a vraiment choisi d'attendre. C'est-à-dire que je crois qu'elle a perçu bien avant moi la chance qui pouvait être la nôtre, la porte qui s'ouvrait, de pouvoir s'aimer, de pouvoir être peut-être un jour mariée et femme, et c'est le cas aujourd'hui. Et je crois que ça construit chez elle une sorte de patience phénoménale pour attendre que moi je sois mûr, et sans savoir si j'allais l'être. C'est-à-dire qu'elle était, finalement, elle est partie dans l'inconnu, en sachant pas si elle obtiendrait jamais ce qu'elle espérait, mais confiante et en me laissant le temps de mûrir. Et je crois que si moi aujourd'hui je peux dire que je regrette rien, que les choses se sont bien passées, que je suis bien à mes bottes, que je suis profondément et intimement persuadé que j'ai fait les bons choix. C'est grâce à elle. C'est grâce à elle. Elle m'a fait une place dans sa vie. Elle m'a fait une place de 15 ans, une place de 16 ans. Vous vous rendez compte, une place vide aussi grande pour que quelqu'un qui n'est pas fini ait le temps d'être fini, quoi. Ça, c'est éblouissant. C'est une manière d'aimer que je souhaite à tout le monde, d'être attendu comme ça, justement pour pouvoir dire un oui qui vienne de soi.
Pieds sur terre, quartier d'été, c'était leur chemin de croix et l'histoire de Benoît et Annick racontée par Léa Minot et réalisée par Perret Legras avec un coup de main de Vanessa Nadjar. Merci à Benoît Magne-Pingeon et à son épouse Annick. Depuis la première diffusion de cette émission en 2014, eh bien sachez que cela fait 6 ans qu'Annick et Benoît sont donc mariés civilement. 6 ans donc que Benoît a quitté ses fonctions au sein de l'église. Ils habitent toujours Comble-la-Ville et les parents de Benoît, qui avaient très mal réagi à l'annonce de sa démission du ministère, ont fini par lui reparler lentement. Et même quelques-uns de ses 6 frères et sœurs aussi semblent avoir repris le chemin du dialogue avec lui. C'est Sandrine Chaperon, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Céline Autin, notre stagiaire qui s'est occupée de ces rediffusions d'été.
Thank you.